Bonjour.
Bonjour.
Donc, les machines à faire peur au cinéma. On va regarder un certain nombre de déclinaisons du thème, parce que c'est vrai que c'est un thème qui a beaucoup été utilisé, et ce depuis, je pense, dès les années 20, même dès les années 10 en termes de comédie, et dès les années 20 avec des films très sont plus sérieux comme Metropolis, on avait déjà le thème de la machine comme entité, personnage maléfique ou en tout cas antagoniste. Et alors depuis ces dernières années, avec l'explosion du cinéma de science-fiction et la possibilité aussi que l'on a de le mettre à l'écran plus facilement avec les nouvelles technologies, c'est un thème qui a repris, qui a pris encore plus de valeur. Alors, pourquoi a-t-on peur des machines? Finalement, des machines partout. Tout simplement parce que c'est un outil et que, comme tout outil, bon, comme je le mets là, on sait très bien qu'il peut, dans une certaine mesure, représenter un danger, puisque c'est une extension humaine, et qu'à partir de là, elle peut aussi bien être bénéfique que maléfique. Alors, pour commencer, on va quand même regarder quelque chose qui va vraiment, théoriquement, nous faire peur, en tout cas nous choquer. C'est étonnant que ce soit Stanley Donen qui ait réalisé ce film. Vous aurez remarqué la petite lumière pile poil dans les yeux pour qu'on voit bien où le robot va intervenir. Oui, je sais, c'est choquant. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être commencer la séance par quelque chose un peu référentiel à Buñuel. C'est quand même un type chien andalou. Ouvrons les yeux, vraiment. Allez-y. Vraiment, bouge pas. T'as pas intérêt, là. Le son est de toute beauté. Hein. C'était le son du poil que l'on enlève de l'œil. Voilà. Non, mais autant utiliser vraiment les grands moyens. Mais vous êtes d'accord? Ah, et en plus, il est beau, il n'a même pas de tête, vraiment. Alors, bon, cet extrait, il nous fait peur. En tout cas, on n'a pas tellement envie d'être à la place de la fille, on va dire d'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne sait pas très très bien ce qui va se passer. C'est la détermination, vraiment. L'arc de la séquence est tout à fait inconnu. Tout peut se passer. Quoi. On peut très bien lui arracher l'œil. De toute façon, pourquoi le sait-on? Parce que une machine d'une grande force peut détruire, mutiler, volontairement si elle commence à débloquer, ou involontairement si, tout simplement, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que si elle peut faire une erreur de la même façon que un être humain pourrait faire une erreur, après tout, un ophtalmo humain qui enlèverait un corps étranger d'un œil pourrait également faire une erreur qui serait fatale. Bon. Évidemment, la scène est assez violente. Histoire de rigoler. Vous connaissez celle-là? Alors là, ils font les malins, hein. Ça va pas durer.
Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply.
I think you'd better do what he says, Mr. Kinney.
Alors, la séquence est magnifique, grâce à un élément, c'est le son. Ils ont fait un traitement de son qui est celui finalement d'un animal qui est un prédateur. Alors, Paul Verhoeven, surnommé le Hollandais violent, on a vu comment l'homme se fait déchiqueter tout de même, adore évidemment d'abord le cinéma de science-fiction, et puis les scènes choc. Bon, l'échec de la machine amènera Robocop, ça on le sait. Ça marche également parce qu'il y a erreur. Tout simplement, bon, voilà, l'arme est jetée sur une moquette, donc le robot, qui a des problèmes de surdité, ne l'entend pas, et donc imagine que l'homme est encore armé. On retrouve la problématique en fait de la limite du robot, au même titre que l'humain est limité et donc capable d'erreur. Alors, cette idée finalement que la création d'une machine, d'un robot, soit dangereuse, nous vient finalement du mythe du golem, nous vient de la création d'un être vivant, ça peut être en fait. À partir du moment où on se met à la place du créateur de Dieu, on se retrouve en porte-à-faux, on se retrouve à tenter de sortir de notre condition, et selon la morale judéo-chrétienne, on le paye. Bon, c'est un classique du cinéma expressionniste allemand, 1920, Paul Wegener. On reconnaît tout l'éthique, tout le style du cinéma, qu'on a appelé aussi le cinéma démoniaque, à savoir les décors faits d'obliques avec des courbes, des lumières extrêmement contrastées. Et une qualité de gros plan. Alors, différence entre machine et être humain, finalement, elle est relativement simple en termes de fiction. On se retrouve avec la machine qui a des attributs de froid, parfait, mais justement d'une perfection qui fait peur. L'absence d'âme, c'est-à-dire pas de pensée, pas d'intériorité. Évidemment, question éthique, c'est pas non plus son but. Et puis en même temps, bon... pas que des défauts, des qualités, à savoir force, précision, etc. L'humain, finalement, donc le biologique qui est opposé, c'est exactement l'inverse. Au point d'ailleurs qu'un humain trop parfait, finalement, on ne l'aime pas forcément non plus, non pas seulement parce qu'il il fait miroir de nos défauts, et parce qu'on se comparerait à une sorte de perfection, mais tout simplement parce que la perfection, quelque part, n'est pas humaine. Quand on pense par exemple à ce qu'on a pu dire du personnage de Sherlock Holmes qui avait une mémoire, une capacité de déduction largement au-dessus de la moyenne, il y a eu des attributs de données, des attributs verbaux de machine à penser. Bon. Ce qui était finalement pas très positif. Alors, le fait qu'une machine soit indestructible, ça c'est terrible, parce que la sale bête, on peut la tuer autant de fois qu'on veut, elle va quand même revenir. Bon, évidemment, là on a un grand symbole de la machine qui fait peur au cinéma, à savoir le Terminator de 1984. Alors, il n'est pas totalement indestructible, on le sait à la fin du film, et puis là, il boit, il a mal à la papa. Mais néanmoins, il faut quand même sacrément mettre la dose pour s'en débarrasser. Bon.
I'll be back.
Et en plus, il va revenir. Alors, la machine, du coup, avec ses qualités particulières, est un personnage antagoniste rêvé, parce que finalement, il est fort, comme elle est dénuée de morale ou d'éthique, elle est tout à fait capable de tuer sans le moindre état d'âme. Même le plus méchant des méchants humains à côté, c'est un amateur. C'est pour ça que l'antagoniste, vraiment le humain, va se servir de la machine comme un outil, le fameux marteau dont je parlais au début, l'outil pour prendre le pouvoir, gagner de l'argent, en bref, réaliser son but dramatique. Ça. Il est merveilleux, celui-là, c'est le méchant. On le reconnaît à son rire sardonique, bien sûr.
You too ought to prevent them from leaving this
room. Vous remarquerez la direction du regard d'un robot à l'autre qui ne correspond absolument pas.
Until the end.
La double projection, mauvaise, comme c'est pas terminé. Le rire, elle n'est pas censée, ça fait tout. Et l'état de boulot. Alors ce machin, enfin c'est un film, pardon, est sorti un an après le premier Star Wars et évidemment avait pour but de surfer sur le succès du film de Lucas.
An hour goes by quickly.
Ça n'a pas marché. Pour des raisons mystérieuses, le film, et même les vues de l'espace, qui pourtant sont quand même très très poétiques et assez festives, il faut le savoir, ça n'a pas fonctionné. Alors là, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que nous avons les robots, mais nous avons aussi les costumes. Celui de la fille est particulièrement réussi. La culotte sous la combinaison transparente, c'est beau.
And never give up
hope. Alors, comme il s'agit d'imiter le succès, enfin de suivre le succès Star Wars, tant qu'à faire, attention, c'est lent, hein. Ici. On sort les attributs de Star Wars. Ah ouais, non, mais ça fait peur tout de suite. Le profil est merveilleux aussi. Le suspense est à son comble. Est-ce que la permanente va survivre? Alors, quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au combat de Jason et Argonautes, magnifiquement orchestré par Harrison, largement avant, et qui est nettement meilleur. Beaucoup plus vivant, plus dynamique. Là, c'est quand même un minimum du réalisme dans le cinéma. Oui. Alors, lui, il n'est pas content, donc il va contre-attaquer, mais enfin, je vous ai fait grâce de la seconde partie du combat. Alors, évidemment, je vous parlais tout à l'heure de la machine au service, par exemple, de l'antagonisme du pouvoir, mais je vous disais que ça avait commencé très tôt, dès les années 20. Alors, évidemment, avec Metropolis, film à voir et à revoir absolument, parce que finalement, c'est un chef-d'œuvre. Dans la version complète et longue que l'on connaît maintenant depuis à peu près 5 ans, 6 ans. Et puis, alors ça, c'est... Si vous avez pris un café avant, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être vous endormir. C'est The Devil Girl from Mars, 1954, qui prévient quand même les humains très obéissants qui restent à côté d'elle que vraiment ils n'ont pas ça sur leur planète et pour cause. Et pour cause, ça vient. Attention. Non mais Planet from Outer Space à côté, c'est du John Cooper. Hein, d'accord. Et alors là, tout à coup, attention. Attention. Vous voyez, ça en jette, hein. Vous voyez le regard. Là, on s'aperçoit quand même que les mimiques martiennes terriennes sont strictement similaires. Alors, c'est pas fini, il se déplace, car il peut marcher. Enfin, en tout cas, la personne qui est dedans peut marcher et peut même se diriger vers les humains en allant dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait vers la droite, alors que les humains sont déjà en train de regarder vers la droite, donc en gros, ils sont en train de voir partir. Ah ben non, finalement, donc il va vers les humains. On s'est attroupé. Bon, d'ailleurs, en fait, il est complètement paumé. Il est dans les arbres. C'est très difficile. Ah, ça y est, plan large. En fait, on s'était tous trompés. Il allait vraiment à la rencontre des thèmes. Est-ce qu'il va les attaquer directement? Parce que finalement, c'est une machine qui fait peur et on est tous très effrayés. Non, il va d'abord regarder sur les plantes. Or, cet effet-là, si on l'a pas vu 3000 fois, ne serait-ce que dans les envahisseurs, on l'a jamais vu. Bon, alors ce film, bon, il est tout à fait inutile de le voir en entier. Non, mais il y en a quelques-uns dedans où, bon, au moins, on peut quand même avoir un certain intérêt, voire tout simplement passer une bonne soirée avec des bières, des chips et des potes. Là, c'est quand même limite. Celui-là est plus intéressant, j'irais dire, dans le sens où... c'est décalé, au moins c'est pas fait exprès. Enfin, si c'est fait exprès, c'est-à-dire que c'est volontairement kitsch. Alors pour l'instant, on va me dire, bon, ça fait pas très peur. Mais écoutez le son quand elles ouvrent leurs paupières. Je ne voudrais pas faire de mauvais esprit, mais je crois qu'elle est allemande. Donc vous l'avez compris, ces filles sont des robots. Et j'aime beaucoup ce petit détail final. Alors, la machine antagoniste, c'est pas forcément l'outil du méchant, hein, de l'antagoniste lui-même. Ça peut être tout simplement la machine elle-même qui est antagoniste. Auquel cas, là, on est réellement en difficulté, puisque autant dans le premier cas, si on abat, si on arrive à se débarrasser de la machine et qu'on met le véritable antagoniste humain hors d'état de nuire. Tous ces outils sont également deviennent inefficaces. Par contre, si l'on a la machine elle-même qui devient personnage à part entière antagoniste, alors là, on est dans une situation dramatique beaucoup plus épineuse, puisque on doit combattre finalement une entité dont on ne connaît pas forcément toutes les règles. Alors, l'une des machines les plus célèbres à ce niveau-là. C'est Hal dans 2001 de l'espace qui en arrive à une caractéristique humaine bien connue qui est celle du meurtre. Alors la machine a évidemment été mal programmée, pourrait-on dire, puisque normalement, si on en croit les lois de la robotique d'Asimov, cet acte d'assassinat collectif est tout à fait impossible. C'est déguisé évidemment dans le scénario par un mauvais fonctionnement de l'ordinateur. Bon, en fait, on sait qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une crise de paranoïa. Et c'est là où c'est intéressant, parce que à partir du moment où on a un trouble de type psychologique, ça signifie qu'en fait, l'ordinateur a été si bien travaillé qu'il en arrive à avoir une psychologie au même titre qu'un humain. Donc plus on se rapproche du modèle d'origine, c'est-à-dire l'homme, plus on arrive évidemment à pouvoir donner le jour aux défauts de l'homme. Sinon, ce que l'on construirait finalement, c'est un super-humain parfait. Et puis alors, un film un petit peu moins connu, c'est L'ascenseur de Dick Mass, 1983, avec une expérience assez étonnante de création de cerveau organique qui est branché et qui du coup à un moment pareil vers les pédales et transforme l'ascenseur en outil tueur. Alors c'est un film, bon l'argument vaut ce qu'il vaut. Hein. Par contre c'est vrai qu'il est très efficacement réalisé, un peu oublié, c'est bien dommage. Dickmas a beaucoup étudié le découpage de à Spielberg avec le même type de cut d'angle, la façon de raconter avec des avant-plans très importants pour avoir une lecture, une lisibilité maximale de l'image. Donc c'est vraiment un film très narratif. Dont l'argument, lui, finalement, ne tient pas tant que ça en termes de crédibilité. Mais le film fonctionne bien, c'est un très bon film de série B, à déconseiller néanmoins aux personnes qui ont déjà peur dans l'ascenseur, parce que alors là, c'est juste terrible. L'ascenseur est quand même, devient tout de même un meurtrier en série, enfin un serial killer, quoi. Assez efficace. Hein. Alors ça, c'est merveilleux. Chopping Mall, elle est fabuleuse. Elle a un cri qui fait ma joie. Je monte le son pour vos oreilles et de votre plaisir. Non, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Alors bon, évidemment, comme très souvent, on a comme argument de départ pour ce film une petite faute et puis on la paye. Alors là, en l'occurrence, des adolescents se font enfermer dans un grand centre commercial pour faire la fête. Faute. Donc. Et il se trouve que les robots de surveillance débloquent la même nuit. Donc, évidemment, ils se font courser, et c'est un combat entre hommes et machines. Et alors, ils sont finalement entre les hommes et les machines, on ne sait pas quel est le personnage le plus bête de tous. Le film, par contre, bon, alors là, c'est pareil, autant on peut voir l'ascenseur, il y a vraiment un intérêt cinématographique là, bon, c'est anecdotique. Mais j'aime bien le cri de la fille. Je me suis toujours demandé s'il y avait une post-synchronisation du son ou si vraiment elle arrivait à faire ça avec 10 prises par scène. Alors, la machine antagoniste, mais réellement antagoniste, à savoir la guerre interespèce, moi machine, toi humain, moi tu es toi. Un truc comme ça. Il y en a finalement de plus en plus. On n'aurait pas totalement pu imaginer cela avant que la machine devienne finalement dans l'acceptation du public suffisamment efficace et autonome pour quel est ce type de comportement. Tant que ça reste un outil puissant, bon, on peut le comprendre. Dans l'absolu, un drone et une bombe, et voilà. Mais là, il y a en plus une volonté réelle d'agir contre l'autre espèce vivante, avec des guillemets. Alors évidemment, un des emblèmes de ce type d'intrigue, c'est Terminator, puisqu'à partir du moment où on donne l'autonomie complète, la machine a des moyens de se créer, de prendre totalement son autonomie. Créateurs, les humains qui ont participé à sa connaissance.
be back.
Et il le fait. Alors, la machine, on l'imagine souvent comme finalement une sorte d'entité extérieure, un objet que l'on peut voir, contempler, toucher, limite respirer, c'est-à-dire comme finalement le serait un autre être humain, un animal ou un aspirateur. Bon. Mais en fait, la machine peut être tout simplement l'espace dans lequel on vit. Il suffit qu'il soit organisé sur une technologie. Soit on est au courant qu'on est dans la machine, soit on ne l'est pas. Par exemple, avec de l'ordinateur à l'intérieur du programme. Alors Tron a été un film au budget faramineux qui a demandé énormément de travail à l'époque. Le premier long métrage utilisant très très massivement l'image en synthèse, et ça a été un échec commercial cuisant, ce qui fait que ça a énormément gêné la production de films de synthèse pendant des années. Évidemment, ceux qui croyaient tout de même en l'utilisation de l'ordinateur dans le cinéma ont tout simplement pris conscience que c'était possible, oui, mais qu'il faudrait sûrement attendre quand même un certain nombre d'années pour que ce soit un outil suffisamment souple pour s'adapter à n'importe quel type de visuel, de dramaturgie, etc. Alors, en plus, il faut bien comprendre que les décors du film ont été réalisés en 3D par ordinateur, mais on a néanmoins des acteurs et on a eu un travail de compositing, de mélange image par image, où il a vraiment fallu redessiner tous les masques image par image de manière à incruster les personnages. Faire un traitement toujours avec du masque pour les esthétiques de néon sur les costumes, etc. C'est un film qui a demandé des ressources humaines gigantesques. Tout simplement, alors pourquoi utiliser des acteurs réels? Pour une raison simple, c'est que d'abord, on n'était pas du tout à l'époque à pouvoir sortir un long métrage qui soit sans acteurs et uniquement avec des personnages synthétiques. Et de toute façon, techniquement, on n'était absolument pas capable de le faire. Là, il fallait attendre bien 15-20 ans pour réellement pouvoir avoir ce type de représentation à l'écran. Et encore, le premier long métrage réellement complètement en synthèse, il sera avec des jouets qui sont beaucoup plus faciles à modéliser, à animer, puisque ça sera Toy Story, notamment avec l'absence d'un certain nombre de problèmes graphiques comme la peau, les cheveux, les choses comme ça qui à l'époque étaient encore très très difficiles. Bon, aujourd'hui évidemment il n'y a plus aucun souci. Et puis alors évidemment là on est au courant que l'on est dans la machine, c'est cube. Le seul problème c'est qu'on n'a absolument pas le mode d'emploi de la machine. Et une des plus belles idées du film à mon avis, c'est quand on se rend compte qu'en fait, on a construit la machine et qu'on se rappelle même plus pourquoi. Ça, c'est une très très belle idée parce qu'on arrive à une espèce d'absurdité, une sorte de raccourci génial de la société entière. pas mis la suite. Vous la connaissez? Bon, je me suis dit que quand même, à une heure avant de manger... Alors, la machine, évidemment, la machine qui nous englobe, c'est un symbole de la société. Donc, encore une fois, Métropolis, on y revient toujours. Et puis, alors, c'est vrai qu'il y a eu cette petite révolution, à savoir se rendre compte que on est tellement dans la machine que notre environnement n'existe pas. Alors, on a la renaissance symbolique qui déchire son enveloppe. Il est dans l'eau, il est dans le liquide amniotique. Il y a tout un ensemble de cordons ombilicaux. C'est très organique. Pas la péridurale. Alors, la machine qui est presque humaine, la peur de se faire remplacer par meilleur ou tout simplement plus artificiel et froid que soi, c'est encore une des peurs les plus classiques de la machine au cinéma. On en avait déjà finalement vu un extrait, enfin, disons une démonstration avec l'extrait de 73 tout à l'heure. Si elle est performante, il y a danger. Alors, il y a danger parce que, par exemple, avec Blade Runner, on ne sait plus qui est qui. Et donc on perd jusqu'à sa propre identité. Proximité physique avec l'être humain. Là, c'est particulièrement bien mis en scène parce qu'on a quand même le sang qui est présent après les impacts de balles. Et puis, on a en fait un comportement qui est humain. Même l'association violence-érotisme, par exemple, avec cette scène de combat. On se retrouve avec comme un être humain, mais doté de capacités supérieures, capacités physiques supérieures. Alors, Demon Seed est un film très intéressant, particulièrement malsain, qui raconte l'histoire de d'un ordinateur qui désire absolument se reproduire. Alors, évidemment, biologiquement, il ne peut pas, parce que ce n'est pas un organisme biologique. Donc, il jette son dévolu sur une femme qu'il réussit à féconder de manière à ce que même si finalement l'ordinateur est assez gentil et
pour ça qu'il est aussi. Let me show you something. This morning scanner scan, have you a womb?
Oh my god. So developed.
Is natural. A fetus is now growing at 9 times the normal rate. In 28 days, it would give birth to a full-term infant.
Parce que là, on a vraiment une sorte de prise de pouvoir de la machine de l'humain par la machine. Et puis évidemment, on reprend toujours dans le presque humain. Al. Voilà, alors ce qui est formidable là, indépendamment du fait que Kubrick réussit superbement dans le film à nous faire suivre une histoire avec en fait très peu de dialogue, il y a un sixième du film qui est dialogué. Mais là, on a, avec ce subjectif de Hall, accès à ce qui est implicite, à savoir réellement le robot qui surveille parce qu'il sait qu'on dit du mal de lui. Quand je parlais tout à l'heure de paranoïa, là on le sent par le choix de la caméra, par le choix du plan même. Alors évidemment, eux ne sont pas conscients et du coup ça va les mener à leur perte. Mais c'est vraiment en termes de mise en scène, c'est très malin parce que Hall est réduit à un seul objectif rouge dans le décor. C'est-à-dire que généralement, on est très très souvent avec la machine en train de repartir vers des formes soit proches de l'homme, exemple typique le Terminator ou le Colossus of New York. Soit qui ressemblent bien à des machines, mais qui ont quand même des caractéristiques. Par exemple, elles peuvent se déplacer, elles peuvent utiliser des outils, etc. Là, la machine est, ne peut pas se déplacer, elle fait corps, enfin, elle fait partie du vaisseau. Donc, à mettre en scène, c'est finalement pas très simple. Cet objectif rouge que l'on voit ne peut refléter aucune émotion, ce sera toujours le même œil mécanique du début à la fin. Quand on s'appelle Kubrick et qu'on décide de le mettre en scène, il n'y a strictement aucun exemple de film dans le passé qui permette de partir sur une base que l'on pourrait faire évoluer, de développer. Il est parti de rien, il a inventé quelques systèmes qui fonctionnent très très bien.
I'll be back.
Et puis alors, il y a la machine qui imite la nature. Et ça, c'est aussi une certaine forme de blasphème, dans le sens où la machine est un produit humain et que du coup, elle n'a absolument pas à non seulement se mettre à la place de l'homme, mais même tout simplement à trop imiter la nature. De plus, nous, dans la nature, on a quand même aussi quelques bestioles que l'on n'aime pas. C'est vrai qu'une machine qui va ressembler à une araignée, qui va ressembler à un poulpe, comme c'est le cas dans Matrix, c'est beaucoup plus efficace pour nous faire peur au cinéma que si c'est juste une boîte de conserve avec quelques bras mécaniques. En fait, là, clairement, comme scénariste et comme réalisateur, on utilise les peurs, les phobies existantes et on les plaque sur un système de machine, d'ordinateur, de cybernétique, tout ce que l'on veut, pour marquer le public. Par exemple, tous ces yeux, ces lampes rouges, nous font immédiatement penser aux yeux, multiples yeux des araignées, et je vous dis, sinon le corps en général, c'est celui du poulpe. Bon, bref, deux bestioles que généralement qu'on aime très très moyennement, sauf le poulpe une fois cuisiné. Alors ça, j'aime beaucoup dans Westworld, on a ce plan qui est très simple d'apparence, et voilà, on se retrouve par le simple mouvement de caméra à découvrir que le serpent qui paraissait tout à fait réaliste, réel au début, est en fait artificiel. Alors là encore une fois, le choix de l'animal n'est pas totalement innocent, parce que bon, le serpent est connoté, il est dangereux, il est venimeux, ou alors il peut vous étouffer, ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas tout à fait l'animal de compagnie préféré des Français. Et puis, je parlais des araignées. Celles-là sont particulièrement bien animées. Très réalistes. Et vous avez entendu à la bande-son le clic des pattes sur le sol. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas chez l'araignée, souvent. C'est ce côté gratuit. Elle ne tombe pas sur le sol, mais ça doit être sur le sol.
Jumping through a window or something.
It's an awful big cat.
Fletcher. We'll go check it out.
You terrify them, absolutely terrify my
friends. You know what your kids do, no terror? Keep them away from me.
You know, très bon film, par ailleurs.
Oui.
Et puis, alors, La machine qui veut comprendre, ça, celle-là, elle peut faire peur également, puisque, encore une fois, elle tente de se rapprocher de l'homme, de l'être humain. Et on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'elle elle représente évidemment un danger pour nous. Alors, encore une fois...
Qu'avez-vous éprouvé en traversant les espaces galaxiques?
Le silence de ces espaces infinis m'a effrayé.
Quel est le privilège des morts?
Ne plus mourir.
Savez-vous ce qui transforme la nuit en lumière?
La poésie.
Quelle est votre religion?
Je crois aux données immédiates de la conscience.
C'est très mystérieux. On a évidemment Hal qui veut comprendre et surtout imiter l'être humain. J'aime beaucoup ce passage, très émouvant, parce qu'en fait, on a cette célébration d'anniversaire par les parents sur la musique de Gaynette Ballet de Khachaturian. Extrêmement nostalgique, c'est plein de pathos.
Happy birthday, Frank.
Et l'ordinateur lui-même se prend d'un bon anniversaire. Il y a quelque chose d'extrêmement pathétique dans la réaction presque proche de zéro de l'astronaute. Il reste complètement froid à la célébration de son propre anniversaire. Bon, évidemment, il ne peut pas remercier ses parents parce que bon, ils ne sont pas en direct, donc il remercie l'ordinateur à la place. Et c'est là, on a quand même un exemple de remplacement, de déshumanisation et de remplacement. Et puis alors, l'ordinateur qui apprend, c'est comme dans War Games, on lui propose de jouer soit au petit carrefour dans le Morpion, soit simuler des guerres. Il échoue un certain nombre de fois pour qu'il finisse par comprendre l'inutilité. C'est exactement le processus d'assimilation et d'apprentissage d'un être humain. Donc on ne s'est pas brûlé un certain nombre de fois. Il s'aperçoit que le jeu est quand même étrange puisque l'idée c'est de ne jamais gagner. Et puis évidemment, l'apprentissage, c'est réussir à devenir quasiment humain avec une scène mythique.
Attack ships on fire off shore.
Évidemment, la sensibilité commence à arriver. Et
I watched sea beams.
Lui qui était l'antagoniste principal du film.
On va te chercher dans 2 minutes,
hein,
je vais
dire
faire
attention.
Hein, all those moments. Lui qui était l'antagoniste principal devient tellement humain qu'il en perd sa dimension effrayante. Mais enfin, néanmoins, à partir du moment où il devient si humain, on est quand même heureux qu'il soit à cette dernière seconde de vie. Parce que là, il commencerait réellement à devenir un ennemi coriace. Et puis, bon, pour finir... Machine à gagner, puis elle a fait elle a même réussi à faire mourir Godzilla, ce qui est quand même une performance.
Merci.